Maintenant, commençons la conférence. Nos méthodes de cultivation, comme vous le savez, à part les méthodes de cultivation des écoles bouddhistes et taoïstes, il y a aussi d'autres méthodes de cultivation. Bien sûr, en réalité, concernant les méthodes de Shulian, il y a principalement deux écoles majeures. L'une, ce sont les méthodes de Shulian de l'école de Bouddha, et l'autre, celle de l'école taoïste. Beaucoup de religions appartiennent au système bouddhiste et beaucoup d'autres appartiennent au système taoïste. Cependant, elles ne sont pas la religion bouddhiste, elles ne sont pas cette religion, mais elles appartiennent au même système. Il y a aussi une sorte qui s'appelle méthode de cultivation de la porte singulière. Ces méthodes de cultivation sont très particulières. Souvent, concernant un aspect très particulier, elles sont absolument uniques. Comme elles sont très spéciales sur un certain aspect, elles sont plus puissantes sur cet aspect en particulier. Mais les gens ordinaires n'en savent rien et on les voit très rarement. Ce sont surtout les gens dans les religions bouddhistes ou taoïstes qui désignent ces personnes du terme de porte latérale et voie gauche. C'est de cette manière que le terme de porte latérale et voie gauche est apparu. En fait, cette porte latérale et voie gauche ne signifie pas voie perverse. Ils l'appellent eux-mêmes voie de cultivation singulière, xiulian, de la méthode de la porte singulière. Il ne s'agit pas de la sorcellerie de la porte singulière. Ce sont deux choses complètement différentes. Les méthodes de cultivation de la porte singulière dont nous parlons sont tout à fait nombreuses. Pourquoi, comme on le dit, ne sont-elles pas appelées des voies perverses? Maintenant, nous le comprenons souvent ainsi. On dit que porte latérale et voie gauche signifie précisément « porte hérétique et voie biaisée ». En fait, autrefois, cela n'avait pas ce sens. Cela a un sens dépréciatif, mais pas un sens négatif, car ces pratiquants de la méthode de la porte singulière ont aussi pour eux-mêmes une exigence stricte concernant le xing-xing. La majorité d'entre eux cultivent selon la théorie du tai-chi. Par conséquent, tous insistent sur la compréhension de l'authenticité par le sens de l'éveil. Donc, comme ils ont des exigences strictes de xing-xing pour se contrôler eux-mêmes, tu ne peux pas dire qu'ils appartiennent à une voie perverse, n'est-ce pas? Parce que le critère pour juger du bien et du mal est de le faire selon les caractéristiques cosmiques. Ce n'est ni d'après l'école de Bouddha, ni d'après l'école taoïste qu'on en juge. C'est seulement parce qu'elles se conforment aux caractéristiques cosmiques que les écoles bouddhistes et taoïstes deviennent des voies orthodoxes, des voies justes. Dès lors, si d'autres voies de cultivation se conforment aussi aux caractéristiques cosmiques, elles sont aussi des voies orthodoxes. Simplement, leurs méthodes de cultivation sont très particulières. Elles ne se limitent pas aux méthodes de cultivation des écoles bouddhistes ou taoïstes. C'est pourquoi leur cultivation est un peu plus difficile. Quand on choisit des disciples, on doit choisir ceux qui sont vraiment très très bons avant de pouvoir transmettre les enseignements. De toute façon, c'est seulement à travers une très longue période de l'histoire qu'on peut fixer son choix sur une personne. Ça se passe ainsi généralement. Certains pourraient penser, que vont-ils obtenir dans le futur? Ils ne sont ni des Bouddhas, ni des Tao. Ils appartiennent parce que les Bouddhas, comme on l'explique dans les religions, chaque Tathagata préside un royaume céleste, ou ce que nous appelons un monde unitaire. Alors il peut sauver les gens. Il possède un tel monde vers lequel il emmène les gens qu'il sauve. Mais ceux qui appartiennent à la méthode de cultivation de la porte singulière n'en ont pas. En fait, beaucoup de grands Tao n'ont pas non plus de tel monde. Souvent, ils restent seuls à un endroit où ils se promènent partout comme des immortels libres. Souvent, c'est comme ça. À part les voies justes, les voies de cultivation vraiment orthodoxes, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, des voies perverses se sont aussi transmises, car le bien et le mal coexistent dans l'univers. À l'intérieur du même être vivant, il y a aussi le bien et le mal. C'est pourquoi des choses mauvaises sont aussi apparues et se sont répandues. Celles qui appartiennent aux voies perverses ne sont pas d'un trop haut niveau, mais dans un certain espace, dans les limites de leur propre espace, elles ont une certaine puissance de gong. Elles ont un certain niveau. Elles peuvent exister de cette manière dans leurs espaces. Il y a deux manières de pratiquer spécifiquement un fa pervers. L'une de le faire consciemment, l'autre de le faire inconsciemment. Pratiquer une voie perverse consciemment signifie ne pas faire de bonnes choses, se spécialiser dans les méfaits. Des maîtres leur disent comment y parvenir, comment faire du mal aux gens. Ceux qui enseignent cela publiquement, habituellement, n'ont pas de gong. Ils n'ont pas de gong, mais ils ont du karma. Leur karma peut être énorme. Beaucoup de karma peut aussi former une sorte d'énergie, avoir une très grande densité et contraindre une personne ordinaire. Il peut avoir un effet sur le corps d'une personne ordinaire. Certaines personnes cherchent un maître de Qigong pour traiter leur maladie. Je dis que c'est tout à fait dangereux. Si tu tombes sur l'un d'eux et qu'il émet des choses sur ton corps, à ce moment-là, il peut réprimer pour toi la maladie, mais ce qu'il a en lui-même est du karma. Ainsi, en rentrant à la maison, tu auras mal plus qu'avant, tu te sentiras même encore plus malade qu'avant. Souvent, cela fait du tort aux gens. Jusqu'à un certain point, ils peuvent aussi utiliser cette matière noire pour renforcer les pouvoirs supranormaux qu'un être humain possède lui-même de manière innée. Quelques gongs pourra aussi lui être rajouté. À un très petit niveau, au niveau des gens ordinaires, ils peuvent avoir un certain effet. Mais ces choses, à mesure que leur karma grandit, leur durée de vie n'est pas très longue. Aucune de ces personnes ne vit très longtemps. Il y en a une autre sorte, c'est-à-dire il y a celle dont je viens de parler, qui est liée à l'existence conjointe du bien et du mal. Mais il y en a encore une autre qui n'existe pas dans la société humaine. Ceux qui pratiquent une voie perverse, ces êtres mauvais sont aussi venus par là durant la mode du Qigong. Ils se sont répandus et ont donné l'enseignement à certaines personnes. Ils ont créé un grand chaos. Maintenant, il n'y en a plus car ils ont tous été éliminés. Il y a aussi des gens qui pratiquent une voie perverse inconsciemment. Qu'est-ce que veut dire pratiquer une voie perverse inconsciemment? Cela signifie qu'ils pratiquent un fa pervers sans s'en rendre compte. Comme vous le savez, le Qigong n'est pas comme une gymnastique. Dans la gymnastique, tu peux faire des mouvements comme bon te semble. Ce que tu penses durant les exercices n'a aucune influence. Mais dans la cultivation, si par manque d'attention, tu mêles quelques mauvaises intentions, cela peut produire des choses mauvaises. Par exemple, si certains, durant leur pratique du Qigong, pensent sans s'en rendre compte à quelque chose de mauvais, en fait, cela peut amener beaucoup de mauvaises choses dans leur gong. Plus leurs pensées sont fortes, plus cela en ajoutera. C'est pratiquer un fa pervers inconsciemment. Ils ne pratiquent pas un fa pervers intentionnellement. Ils veulent aussi pratiquer le Qigong, peut-être pour soigner des maladies ou peut-être veulent-ils cultiver vers les niveaux supérieurs. Mais ce qu'ils pratiquent est en fait un fa pervers. Et le nombre de ces gens est tout à fait considérable. Pourquoi dis-je cela? Réfléchissez. De toutes les personnes qui pratiquent le gong dans les parcs ou dans d'autres environnements, combien d'entre elles mettent l'accent sur le « de » ? Combien y en a-t-il qui pensent à faire de bonnes actions pour les autres et à maintenir un cœur bienveillant quand ils pratiquent ? Combien y a-t-il de telles personnes ici ? Certains pensent même à de très mauvaises choses durant la pratique. C'est pratiquer un fa pervers inconsciemment. Si tu dis à une telle personne qu'elle pratique un fa pervers, peut-être ne l'admettra-t-elle pas. Elle dira « J'ai reçu l'enseignement de tel ou tel grand maître de Qigong. » Si cette personne est vraiment un maître de Qigong d'un fa juste, ne dois-tu pas agir en accord avec ce qu'il t'a enseigné sur le Xinxin? Tu ne le fais pas. C'est pourquoi, bien que tu pratiques ce système, tu ne développes pas de gong. Ce que tu pratiques sont des choses mauvaises, sales, noires. et aucun système ne surgira de cela. Voilà ce qu'il en est habituellement. Il y a encore des gens et certains maîtres de Qigong qui font de mauvaises choses, utilisant des trucs d'un bas niveau, comme dessiner des figures magiques, chanter des formules magiques, pour commander à des esprits inférieurs de commettre des méfaits et de nuire aux gens. Des choses de ce genre sont nombreuses. Elles tombent aussi dans la catégorie de la pratique d'une voie perverse. Tout cela fait du tort. On se nuit à soi-même autant qu'aux autres. Mais notez-le tous, cela n'a absolument aucun effet sur nos pratiquants. Ce genre de truc qu'ils émettent ne peut même pas faire face à une seule révolution du Falun. Ça n'a absolument aucun effet. Mon corps de fa ne permettra non plus à personne de faire des choses de ce genre. Mais un point doit être clair. Tu peux rencontrer certaines choses. Par exemple, quelqu'un m'a fait du tort, on a touché mon corps et on y est entré, ou j'ai perdu quelque chose. Il s'agissait peut-être pour toi de rembourser quelque chose de karmique. Il ne lui sera pas permis de te faire vraiment du mal, d'abîmer ce que tu as toi-même développé par le Xiulian. Personne n'est autorisé à toucher ou saboter ce qui s'est développé par la pratique du Falun Dafa. Cela ne peut pas être perdu. N'aie aucune crainte à ce sujet. Ainsi, lorsque tu rencontres ces problèmes, c'est peut-être dû au karma, et ce sont des phénomènes temporaires. Mais souvent, quand tu rencontres des moments très difficiles, pourquoi n'appelles-tu pas le maître? Sur ce point, n'est-ce pas aussi ta confiance et ta capacité d'éveil qui sont mises à l'épreuve? Ensuite, parlons d'une autre question, c'est-à-dire de la question de la cultivation conjointe de l'homme et de la femme. La cultivation conjointe de l'homme et de la femme, dans notre méthode, il n'y en a pas. Nous ne permettons pas non plus de cultiver de cette façon. La cultivation conjointe de l'homme et de la femme est enseignée dans la société, et il y a des maîtres de Qigong qui le font publiquement. Si tu enseignes ainsi dans la société, peu importe que tu sois un maître de Qigong, cela implique la question de la moralité des gens et même des questions légales. Dans la société, il n'est pas permis de faire des choses de ce genre. La cultivation conjointe de l'homme et de la femme vient du tantrisme. L'école qui l'utilise vraiment est le tantrisme, connu également comme la religion du lamaïsme. Cette méthode est transmise dans le cadre de leur religion. Elle est une méthode pour cultiver et pratiquer. Et même dans ce contexte, elle est enseignée en secret et peu de gens peuvent la connaître. C'est seulement lorsqu'on enseigne aux disciples en secret, qu'on leur enseigne à un haut niveau, qu'on peut utiliser ces choses-là. Alors la cultivation conjointe de l'homme et de la femme, dans notre contrée des Han, à l'époque où le tantrisme Tang a été introduit et se transmettait, précisément parce qu'il contenait la cultivation conjointe de l'homme et de la femme, il a donc été aboli et proscrit de la Chine, de la contrée des Han. C'est pourquoi il a cessé d'exister dans notre contrée des Han. Mais au Tibet, où les valeurs morales sont tout à fait différentes de celles de notre contrée Han, cela a continué. Mais même là, il n'est transmis que dans le cercle intérieur de la religion et en secret. Il cultive en secret. Mais de nos jours, certains maîtres de Qigong se sont aussi embarqués dans la cultivation conjointe de l'homme et de la femme. Même plus étrange que cela, l'école taoïste s'est mise à la cultivation conjointe de l'homme et de la femme. Cela ne date pas d'aujourd'hui, mais a été introduit dans l'école taoïste depuis la dynastie Tang. Comme nous l'avons dit, depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, même si l'histoire est longue, un bric-à-brac a toujours existé. Ce qui s'est transmis depuis la dynastie Tang n'est pas nécessairement bon. Connais-tu le but de la cultivation conjointe de l'homme et de la femme? On veut atteindre un équilibre du yin et du yang. Rassembler le yin pour compenser le yang. Rassembler le yang pour compenser le yin. On se complète mutuellement. On se cultive et par là, on réalise le but de la cultivation conjointe. Mais dans la théorie de l'école taoïste, également dans celle de l'ancienne Chine, on accordait beaucoup d'importance au yin et au yang. On pense que dans le corps humain, il y a déjà le yin et le yang. Pourquoi doit-on le rassembler ou le chercher à l'extérieur? Certains dans l'école taoïste considèrent le côté gauche du corps humain comme yang et le côté droit comme yin. C'est l'origine de l'expression « côté gauche masculin, côté droit féminin ». On considère dans l'école taoïste la partie inférieure du corps comme yin, la partie supérieure comme yang, la face postérieure du corps comme yang et la face antérieure comme yin. Ces affirmations sont tout à fait fondées et très scientifiques. Ainsi, dans toutes les voies de cultivation, on peut engendrer beaucoup d'entités subtiles et d'êtres vivants à partir de son propre corps. Ces entités subtiles dont nous parlons ne sont pas de mauvaises choses. Chaque objet a sa vie dans chacun des autres espaces. Ils sont tous vivants. Cela concerne les substances organiques autant qu'inorganiques. La classification en matière organique et non organique a été faite par l'homme de science d'aujourd'hui. C'est défini dans le cadre de la connaissance actuelle. Ainsi, nous l'avons dit, l'école taoïste enseigne que dans le corps humain lui-même existent le yin et le yang. À quoi bon en rassembler à l'extérieur ? N'est-ce pas n'importe quoi ? La cultivation conjointe véritable de l'homme et de la femme, en fait, appartient seulement au lamaïsme. Depuis l'Antiquité, dans notre pays, le tantrisme tibétain a toujours été très controversé dans la religion du bouddhisme. Les deux se sont toujours opposés l'un à l'autre. Au tout début, les gens l'appelaient tous le lamaïsme, il n'était pas appelé bouddhisme. Plus tard, comme les termes se sont répandus, bref, dans les temps modernes, les gens désormais ne connaissent plus les controverses des temps anciens. Nous les avons aussi examinés et en fait, leur méthode de cultivation à l'origine ne vient pas de l'humanité terrestre. Mais cette méthode est un moyen de cultivation d'autres planètes. C'est pourquoi les valeurs morales en sont très différentes de celles de notre humanité. Ici, nous t'avons brièvement expliqué la situation. Certaines personnes m'ont demandé « Pouvons-nous utiliser la cultivation conjointe de l'homme et de la femme ?» Nous disons que la cultivation exige de se dédier à une seule voie. On n'a pas à se poser ce genre de questions. En fait, la cultivation conjointe de l'homme et de la femme n'est pas si simple. Ce que tu en connais est tout à fait superficiel. Leurs xiulian secrets sont transmis oralement et de cœur à cœur. Il n'y a rien d'écrit. Si tu essaies de pratiquer ce qui est écrit dans les livres, tu n'en seras pas capable. Ces choses ne peuvent pas être rendues publiques. Voilà pourquoi tu ne seras pas capable de pratiquer. Si tu n'en as pas obtenu le fa, tu ne peux pas pratiquer la véritable cultivation conjointe de l'homme et de la femme. Mais on ne doit pas non plus ajouter arbitrairement des éléments étrangers à un système de cultivation donné. Voilà quel est le problème. Alors quelques-uns enseignent cela en public. Réfléchissez. Une personne ordinaire ne veut pas nécessairement cultiver et pratiquer. C'est seulement durant les récentes années de popularité du Qigong qu'on a commencé à enseigner la cultivation conjointe de l'homme et de la femme. Je dis que c'est corrompre les critères moraux des gens, c'est simplement semer la confusion. Car leur xin-xin n'a pas la hauteur requise. Dans la cultivation du lamaïsme, il faut un très haut niveau pour pouvoir l'utiliser. Ce sont des choses qui ne peuvent être employées qu'à un très haut niveau, mais ceux-ci veulent les enseigner aux gens ordinaires, à des gens qui n'ont même pas renoncé à tous leurs sentiments et désirs. Comment pourront-ils cultiver ? S'ils en font usage, ce sera mal. Ne faut-il pas l'éviter ? Voilà le problème. Ensuite, parlons du xiulian simultané de l'esprit et du corps. Ce sont des termes qui proviennent du milieu des pratiquants. En fait, lorsque j'ai parlé d'aller au-delà des cinq éléments, j'avais déjà mentionné la cultivation conjointe de l'esprit et du corps. Cela veut dire utiliser de la matière hautement énergétique pour remplacer les cellules originelles du corps physique, pour remplacer le corps charnel. Tes cellules vont être complètement remplies par cette matière de haute énergie et graduellement remplacées par elle. Alors on ne vieillira pas si facilement. Comme ces substances de haute énergie recueillies dans d'autres dimensions, comme elles ne sont pas dans le champ du temps de notre dimension, elles ne sont pas sujettes à ces restrictions, ainsi elles ne vieillissent pas. Ceci est l'enseignement fondamental de la cultivation conjointe de l'esprit et du corps. Il y a quelques voies de xiulian qui ne cultivent pas simultanément l'esprit et le corps, mais qui peuvent aussi parvenir à prolonger le cours de la vie. Certains peuvent penser, comment prolongent-ils leur vie malgré tout ? S'ils ne cultivent pas le corps, ne devront-ils pas mourir quand le temps sera venu ? La vie n'est-elle pas prédéterminée ? Oui, mais il s'agit d'une autre question, celle de transcender les trois mondes. Il s'agit de franchir les niveaux, n'est-ce pas ? Même si le système ne cultive pas le corps, mais que durant le xiulian, le niveau fait une percée au-delà des trois mondes, alors on n'est plus désormais sujet aux limitations qui existent à l'intérieur des trois mondes. C'est pourquoi cette personne peut, elle aussi, prolonger sa vie, mais comme elle ne cultive pas le corps, Bien qu'elle puisse vivre pendant longtemps, elle deviendra de plus en plus vieille, si vieille que son apparence fera peur. C'est ce qui va lui arriver. La plus grande caractéristique des systèmes de cultivation conjointe de l'esprit et du corps est qu'un pratiquant semble très jeune. L'état de sa physiologie est celle d'une personne jeune. Comme le temps est limité, nous parlerons de cela brièvement. Maintenant, parlons un petit peu d'une autre question, la question de cultiver la parole. Certains de nos élèves aiment vraiment répandre des rumeurs pour montrer qu'ils en savent plus. Cela a eu quelques très mauvais effets. Il y a aussi des gens qui étaient très bavards auparavant. Certaines personnes ordinaires accordent beaucoup de considération à ceux qui peuvent être beaux parleurs. Celui qui ne peut pas parler très bien semble facilement désavantagé. Je dis que c'est la conception d'une personne ordinaire. Vous savez, dans le passé, dans les religions, il y avait un dicton qui disait « ouvrir la bouche est du karma ». Bien sûr, on disait « couvrir la bouche est du karma » parce qu'on subdivisait le karma en bon et en mauvais karma. En fait, ce qu'on appelait le bon karma est la matière blanche que nous désignons par deux. On ne parlait pas du tout de gong, et c'est pour cela que l'on dit ainsi. Ce qu'on désignait par mauvais karma est ce que nous appelons karma. Ouvrir la bouche est déjà du karma. On accordait de l'importance à ne pas créer de karma. Pourquoi ? Parce que dès qu'une personne a une pensée, si tu veux dire quelque chose, tu dois utiliser tes pensées pour contrôler ce que tu vas dire, n'est-ce pas ? Alors si cette pensée se forme, c'est qu'elle est peut-être causée par un petit attachement, qu'elle est due à un petit attachement. Par exemple, tu dis « je veux manger », c'est parce que tu as faim. Tu veux manger. C'est un attachement à la nourriture. Simplement pour illustrer ce point, aussitôt que dans les circonstances habituelles ordinaires, tu exprimes ce que tu veux faire ou ce que tu aimes faire, il se pourrait que la pensée ait été engendrée par un attachement. C'est pourquoi on pensait qu'ouvrir la bouche pouvait être du karma. Dans le passé, les moines pratiquaient l'abstention de la parole, c'est-à-dire ils gardaient la bouche fermée et ne disaient rien. Je ne dirai rien pendant une année ou pendant une demi-année. Je pratiquerai en m'imposant le silence. Beaucoup de gens, beaucoup de moines dans le passé faisaient ainsi. Ils savaient que, parce que comme pratiquant, on ne fait pas attention à accumuler du de, mais on accorde l'importance à le préserver. Je le préserverai pour ne pas en perdre. D'ailleurs, à propos de l'accumulation du de, on ne peut pas juger si tes actions sont bonnes en utilisant le critère des gens ordinaires. Si ce que tu as fait est vraiment bon ou non doit être jugé selon des critères supérieurs. Alors, puisqu'on ne peut pas être sûr de ces choses-là, on se contente simplement de préserver le de. Du moment que je ne perds pas de deux, ça suffit pour être sûr de ne pas créer d'obstacles dans mon Shaolian. C'est pourquoi certains pratiquaient en s'imposant le silence. Dans le bouddhisme, ne parle-t-on pas de corps, parole, esprit ? Si quelqu'un veut cultiver cela, alors il ne parle pas. Bien sûr, dans notre système, le Shaolian est accompli au milieu des gens ordinaires. Si tu cultives et pratiques dans la société des gens ordinaires, comment peux-tu fonctionner sans parler ? Certaines personnes disent « Je travaille comme animateur radio, comment ne pas pouvoir parler ?» Bien sûr, au travail, nous devons faire ce que nous avons à faire et dire ce que nous avons à dire. Si quelqu'un fait quelque chose de mal et que toi, le chef, tu n'y prêtes pas attention et ne dis rien, alors de bonnes personnes auront à en souffrir. Si l'on ne soutient pas ce qui est juste et si l'on ne punit pas ce qui est mal, je dis que c'est aussi inacceptable. Donc le point essentiel est que nous devons juger par nous-mêmes, suivant les critères d'un pratiquant, ce qui doit être ou ne pas être dit. Bien sûr, cela ne va pas si nous ne parlons pas. Car qu'y a-t-il de mieux à faire que de répandre le fait juste ? C'est pourquoi nous devons encore parler. Mais quand nous parlons, nous devons être attentifs à ne pas dire des choses qui causeront du tort à la cohésion des hommes dans la société. Ne sème pas la discorde et ne développe aucun attachement. Car les paroles produites par ces attachements peuvent blesser les gens ou même saboter Dafa. J'ai brièvement discuté de cette question, c'est tout pour cela. Parlons ensuite d'une autre question. La question : pourquoi y a-t-il un chant sur les statues de Bouddha ? Pourquoi y a-t-il un chant sur une statue de Bouddha ? Certaines personnes disent que c'est le chant d'énergie engendré par les moines lorsqu'ils chantent les sutras devant la statue. Certains disent qu'il provient de la dévotion des gens au Bouddha. Je dis pas nécessairement, car lorsqu'on chante les écritures, l'énergie qui provient du corps du pratiquant est dispersée. La même chose est vraie lorsque l'on vénère le Bouddha. Alors pourquoi le chant est-il présent seulement sur la statue de Bouddha ? Ce que nous avons vu est la chose suivante. En fait, quand une personne a atteint un très haut niveau dans la cultivation, au-delà des trois mondes, quand elle est parvenue à un certain rang du fruit, elle développe des corps de fa. Et ces corps de fa ont la même image que la personne. Ils sont complètement ouverts. Si une personne agit parmi les gens ordinaires, elle ne peut pas être complètement ouverte. Si elle l'était, elle ne pourrait rien faire. Certaines personnes me demandent, « Maître, savez-vous ce que je suis en train de penser ? Je ne me préoccupe pas de percevoir ce que tu penses. Si je devais sentir ce que tu penses, ce que chacun pense, il se pourrait que je ne te sauve plus. » Les pensées humaines sont très mauvaises. Tu crois que certaines de tes pensées sont vraiment bonnes, mais jugées selon mon critère, elles sont vraiment mauvaises. Cela veut dire que nous ne devons pas les percevoir. Nous y sommes même fermés. On ne permet pas de se mettre en contact avec cela. Mais les corps de fa peuvent le faire. Ils peuvent manifester des grands pouvoirs divins et ils peuvent tout faire. En fait, la statue d'un Bouddha a un champ parce qu'il y a là un corps de fa. S'il y a là un corps de fa, la statue de Bouddha aura un champ parce qu'elle a à disposition de l'énergie. Ainsi, quand certaines personnes pratiquent le gong devant une statue de Bouddha, dès qu'elles se tiennent là, elles sentent une force qui les repousse, qui les fait reculer. En fait, c'est dû à ce champ parce qu'il y a là un corps de fa. Cependant, comme la moralité de l'humanité a dégringolé, tout a changé dans la société humaine. Même les figures et les statues de Bouddha ont subi des changements. Quel changement ? C'est-à-dire que sur certaines figures de Bouddha, il n'y a pas du tout de corps de fa d'un être éveillé. Et on n'a pas non plus fait la consécration ou d'autres prières pour inviter le corps de fa d'un être éveillé. On n'a jamais fait ce genre de choses. Bien sûr, comme nous parlons de consécration, nous allons vous expliquer pourquoi il y a un corps de fa sur la statue. Cela ne veut pas dire qu'une statue de Bouddha qui sort de l'usine de fabrication est déjà un corps de fa. Non, elle n'a rien. C'est seulement après avoir été consacré qu'elle peut avoir un corps de fa. Avant d'être consacrée, à mon avis, elle est simplement une œuvre d'art. C'est seulement après la consécration qu'elle peut avoir un corps de fa. Comment fait-on la consécration d'une statue de Bouddha ? Dans les religions, on organise une cérémonie religieuse. Beaucoup de moines se rassemblent dans le temple et chantent les écritures. C'est seulement si on prie avec dévotion le corps de fa d'un être éveillé de venir que ça aura un tel effet. Bien sûr, actuellement les moines ne savent plus ce qu'est la consécration. Tout ce qu'ils savent, c'est comment organiser ce genre de cérémonie et ils considèrent cela comme une consécration. Mais quel est le but de la consécration ? Il semble que beaucoup ne peuvent pas vraiment l'expliquer. En fait, il s'agit simplement d'inviter le corps de fa d'un éveillé. Si ce qu'ils émanent sont des pensées justes, si ce qu'ils récitent sont des sutras, ils parviendront à inviter le corps de fa d'un éveillé. Alors la statue deviendra la statue de son corps de fa. Puisqu'il aura acquis un corps physique dans le monde, il pourra aider les gens à faire de bonnes choses. Les gens peuvent sincèrement se repentir en face de lui et devenir de bonnes personnes. Voilà le but principal de la consécration. Mais de nos jours, un problème est apparu. Beaucoup de gens ne consacrent pas leur statue de Bouddha. Ils la mettent simplement sur l'autel et se mettent à brûler de l'encens pour elle. C'est très dangereux. Beaucoup de gens ont organisé une cérémonie de consécration pour les statues de Bouddha, mais le but n'a pas pourtant été atteint. Beaucoup d'autres demandent à des maîtres de Qigong de faire cette consécration, mais je le dis à chacun. Actuellement, il n'y a pas un seul maître de Qigong qui puisse faire la consécration. Beaucoup de maîtres de Qigong sont des imposteurs. Ils sont possédés par des esprits. Alors pourquoi les statues ont-elles de l'énergie ? Parce que ce genre de mauvaises choses s'est aussi accroché à ces statues. C'est très dangereux. Si tu en vénères une comme ton maître, ce sera vraiment mauvais. Donc certaines personnes vont au temple. Même dans les temples, il y a des statues de Bouddha qui ne sont pas consacrées. Là, dans le temple ou à la maison, ces gens prient pour de l'argent. Ils les vénèrent et découvrent que leur prière leur amène vraiment de l'argent. Ainsi, ils pensent que ça marche plutôt bien. C'est pourquoi on suspend des pancartes où l'on peut lire « Tous tes souhaits seront accomplis ». Mais beaucoup de gens considèrent que c'est très bien et disent « Quoi ? Tu prétends que les Bouddhas ne nous aideraient pas à faire fortune ? Mais ce ne sont pas les Bouddhas. La plupart des statues avec l'insigne « Tous tes souhaits seront accomplis » sont possédées par des renards. En grande partie par des renards. C'est très effrayant. Mais ils ne t'aident pas pour rien. Il y a des conditions et un prix. Si tu pratiques le Qigong et que ton corps est relativement bon, ils s'agripperont à ton corps et en prendront possession. Ils n'ont pas la possibilité de t'aider. Ils n'ont pas d'aussi grand pouvoir divin. Mais que peuvent-ils faire ? Ils peuvent transformer ton karma et te libérer de la maladie. Si tu ne veux pas être malade, ils rendront tes parents et tes amis malades. Si tu n'es pas malade, tes jeunes frères et sœurs le seront. Tes frères et sœurs plus âgés le seront. Tu veux devenir riche ? D'où vient l'argent ? Ils doivent prendre l'argent aux membres de ta famille et te le donner. Il ne fera... Alors il y en a qui... La situation que je viens de mentionner est très effrayante. Il y a encore une autre situation. Il y a de nombreuses statues de Bouddha qui ne sont pas vraiment possédées, mais il n'y a pas d'être éveillé non plus. Comme on les vénère, elles développent graduellement un Bouddha, un immortel taoïste ou une déité grâce à cette vénération. Vous savez, actuellement, les gens vénèrent cette déité, Guangong. Ils disent que Guangong est le dieu de l'argent. En fait, il a été produit par la vénération. Les gens l'ont créé par la vénération. Guangong n'est pas du tout le dieu de l'argent. Il a été produit par la vénération des gens. Aussitôt que la rumeur a couru que Guangong pouvait aider les gens à faire fortune, il a reçu de nombreuses offrandes. Ainsi, il est devenu le dieu de l'argent. De quoi s'agit-il ? Parce qu'il n'y avait rien sur cette statue de Bouddha ou cette sculpture, la pensée humaine, comme les scientifiques l'ont maintenant découvert, est matière. Dans le Qigong, on dit maintenant que la pensée humaine existe sous forme d'énergie, qu'elle a une existence matérielle. Les pensées d'une personne ordinaire sont très faibles et se résorbent très vite après avoir été émises. Mais lorsqu'on concentre ses pensées en les dirigeant sur un objet, elles peuvent y rester longtemps. Si la statue d'un Bouddha n'a pas été consacrée et qu'elle est vénérée, le problème suivant peut survenir. La première personne qui vient la vénérer est la plus importante. Réfléchissez, combien de personnes maintenant prient le Bouddha en disant « Je veux cultiver et obtenir le fruit juste. Je vous en prie, donnez-moi la force, donnez-moi votre bénédiction, je dois obtenir le fruit juste. » Combien de personnes, y compris les moines, pensent de cette manière lorsqu'ils prient un Bouddha ? Beaucoup de gens demandent « Aidez-moi à faire fortune, aidez quelqu'un de ma famille à éviter un désastre. » Il y a même quelques moines qui pensent encore à des gens de leur famille. Les 6 racines mondaines n'ont pas été coupées. Obtenir de l'argent, réfléchissez plutôt. Dès qu'on commence à la vénérer, ce sera terrible. Pourquoi ? Car par la concentration, on va émettre la structure d'un cerveau orienté vers la richesse et l'argent. C'est une structure complète du cerveau, mais cette structure pense à l'argent. Elle est envoyée sur l'image du Bouddha. Dans d'autres dimensions, les objets peuvent devenir grands ou petits. Ce n'est pas comme notre corps dont la taille est fixe. À vrai dire, le corps humain n'a pas de taille fixe. Toi-même n'en sais rien. Si cet univers se rétrécit et devient très petit, tous les objets de cet univers deviennent de manière correspondante aussi plus petits. Même l'agrandissement d'une loupe peut devenir plus petit. Ainsi, tu ne remarqueras pas que l'univers est rapetissé. Lorsqu'il devient plus grand, tout ce qui existe en lui s'agrandit de manière correspondante. Ainsi, tu ne peux pas remarquer que l'univers s'est agrandi. Pourtant, ce n'est pas complètement fixe. La structure du cerveau peut changer sa taille dans les autres espaces. Elle atterrit sur la tête de la statue de Bouddha, ainsi la statue de Bouddha a maintenant un esprit. Mais cet esprit pense à l'argent. Alors en plus de cette personne, d'autres viendront aussi la vénérer. Elle-même aussi viendra la vénérer, et petit à petit, les prières vont créer un corps à la statue. Le corps des gens ordinaires possède aussi un peu d'énergie et peuvent émaner une aura. En particulier, lorsqu'un pratiquant de Qigong ou un pratiquant vient vénérer la statue, il ajoute aussi de l'énergie, et celle-ci devient de plus en plus forte. La vénération lui crée une forme. Finalement, elle prend la forme d'un corps tangible. Celle-ci est identique à la statue de Bouddha. Si la statue de Bouddha est celle de la Bodhisattva Guanyin, ta vénération aura produit une fausse Bodhisattva Guanyin. Si la statue de Bouddha est celle de Bouddha Amitabha, ta vénération aura produit celle d'un faux Bouddha Amitabha. Voilà pourquoi est-ce à ce point dangereux. Mais il ne s'agit pas de la manifestation d'un véritable Bouddha Amitabha et il ne s'agit pas du corps de Fa véritable de la Bodhisattva Guanyin. Cela a été créé par ta propre vénération. Quoi qu'elle ressemble à un Bouddha ou à une Bodhisattva, son cerveau est tourné vers l'argent. Elle est un être vivant produit à un niveau inférieur avec peu d'énergie. Mais elle n'est pas perdue dans l'illusion comme les personnes ordinaires. Elle peut voir quelques principes que ne connaissent pas les gens ordinaires. C'est pourquoi elle n'ose pas faire de mal arbitrairement aux gens. Que va-t-il se passer? Il y a des gens qui croient en elle avec beaucoup de piété, comme une bodhisattva. Aussi, elle accomplit quelques bonnes actions. Mais elle n'accomplit pas ces bonnes actions pour rien. Parce qu'elle a été créée à un bas niveau, elle n'a pas la nature originelle d'un Bouddha. Donc les gens vont lui demander, « S'il te plaît, bénis-moi, bénis ma famille, pour que mon enfant guérisse de sa maladie. » Bien, je te bénis. Il s'en remettra, mais tu dois jeter de l'argent dans ma boîte. Si tu y jettes de l'argent, ton enfant se rétablira. Si tu n'en jettes pas, alors il n'ira pas mieux. Si tu en jettes beaucoup, il se rétablira rapidement. Elle agit ainsi. Certains prient. S'il te plaît, aide-moi à faire fortune. Je voudrais devenir riche pour avoir la belle vie. Très bien. Tu veux faire de l'argent? Très bien. Tu pratiques le Qigong, tu as obtenu un peu de dan, et moi je n'en ai pas. Je prendrai ton dan. Alors elle le prend. Je ne peux pas t'aider pour rien. Je te donne de l'argent et toi, tu dois me donner quelque chose aussi. Un échange équitable. Pas de perte, pas de gain. Ou bien tu me donnes un peu de ton gong. Quoique le gong ne puisse être accumulé, elle peut le transformer en autre chose, en une énergie utilisable. Et alors elle te permettra d'obtenir de l'argent. Comment? Par exemple, elle te fera culbuter et là tu trouveras un portefeuille où tu obtiendras une plus grande gratification à ton travail. D'une manière ou d'une autre, tu obtiendras de l'argent. Elle fait des choses de ce genre. Il y a encore un plus grand danger. Si tu es un bouddhiste laïque, si tu es un moine ou un prêtre taoïste, si tu la vénères, cela mènera de graves conséquences. Comme tu l'as prise pour ton maître, elle viendra prendre soin de toi et te contrôler. Comme tu éprouves beaucoup de dévotion à son égard, elle prendra soin de toi, elle arrangera la manière dont tu pratiqueras le gong. Mais quelle que soit la manière dont tu pratiques, tu ne pourras jamais être plus haut qu'elle. Elle n'est déjà pas très haute. Comment pourrais-tu pratiquer? Elle arrange tout pour toi, mais peu importe comment tu cultives, de quelle manière tu la considères comme ton maître, combien sincèrement tu veux faire le bien et cultiver ton cœur, personne là-haut ne t'acceptera. Personne ne voudra de toi. Chaque école a sa propre méthode de Xiulian, a une méthode pour sauver les gens. Tu n'appartiens à aucune école et donc personne ne t'acceptera. De plus, tu t'es développé dans la cultivation grâce à cet esprit de niveau inférieur. Que va-t-il t'arriver après la mort? Certaines personnes l'ont vu et disent qu'une bande de gens vient dans le temple et qu'ils sont conduits par un chef. Un Bouddha conduit une bande de moines. Une bande vient aujourd'hui, une autre viendra demain. Certains voient qu'ils sont souvent dans le temple. Qui sont-ils? C'est simplement une telle bande. Quand quelqu'un est mort, ou après son nirvana, comme on dit, cette personne croit qu'elle a atteint le Tao, mais en fait, elle s'en est allée rejoindre ce faux Bouddha. Il les contrôle, les conduisant en bande. Cela est dû au fait que l'humanité s'est ainsi développée jusqu'à ce stade aujourd'hui. La moralité humaine a dégénéré, tout a dégénéré à cause de l'attachement des gens. Tout ça a pour cause leur propre karma. Shakyamuni n'avait-il pas raison quand il appelait cette époque la période de la fin du Fa? Il est très difficile pour les moines de se sauver eux-mêmes quant à sauver les autres. C'est vraiment comme cela. C'est extrêmement compliqué. On ne peut pas passer sous silence ce problème. Je devais l'expliquer parce que beaucoup de gens vénèrent les images de Bouddha, font des offrandes et d'autres choses semblables. Ensuite, parlons d'une autre question. Dans le milieu des pratiquants, spécialement dans les cercles du Qigong, il y a encore quelques petites voix mondaines de l'école taoïste. Nous venons de parler de ces choses qui peuvent être développées par la vénération des gens. On les appelle ainsi les Bouddhas terrestres ou les Tao terrestres. Certains d'entre eux viennent aussi parmi les gens ordinaires. Ils pensent qu'ils sont plutôt bons. En fait, ils n'ont pas de trône. Ces Bouddhas terrestres et ces Tao terrestres, ils ont même des noms, tel ou tel Bouddha. On leur a donné des noms, mais en fait, ils ne sont rien du tout. Ensuite, nous allons parler de ce qui est appelé le traitement par les pratiques magiques. C'est quelque chose qui est utilisé dans les petites voies mondaines des écoles bouddhistes et taoïstes. Que sont ces petites voies mondaines? En fait, ils ont l'accoutrement de vieux maîtres taoïstes. Mais qui sont-ils? Il trace des signes talismaniques et pratique l'exorcisme, la thérapie, la divination et la géomancie. Ils ne peuvent pas cultiver et pratiquer, et ils ne peuvent pas réussir dans la cultivation. Leurs principes sont ceux du plus bas niveau de l'école taoïste, du niveau le plus inférieur. Eux-mêmes n'ont pas d'énergie, mais ils invoquent certains esprits de niveau inférieur, les font venir pour les aider à accomplir des choses. C'est pourquoi ils tracent des signes talismaniques. Tracer des signes talismaniques sert à ça. Il y a aussi l'incantation de formules magiques. Ils font ce genre de choses. Le traitement par les pratiques magiques appartient aussi à ce genre, mais il peut aussi traiter les maladies parmi les gens ordinaires. Sans se préoccuper de ce qui t'est déposé sur le corps, selon le point de vue d'une personne ordinaire, tu seras soulagé temporairement de ces douleurs. C'est pourquoi on considère qu'il s'agit aussi de traitement de maladies. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de méthodes pour traiter les maladies dans notre pays. En Chine, dans l'Antiquité, il y avait de nombreuses méthodes de traitement des maladies, à part les techniques déjà connues maintenant de la médecine chinoise. Actuellement, nombre de celles-ci ont été organisées dans le cadre de la médecine chinoise. Par exemple, le DIMAC, l'acupressure, la chiropratique, le reboutement, c'est-à-dire la réduction des fractures, la guérison par les herbes médicinales, le massage et l'acupuncture. Il y a aussi le traitement par le Qigong. Y est inclus la discipline du traitement par les pratiques magiques. Comme elles ont été organisées, elles ont été classifiées en disciplines. Parmi les méthodes thérapeutiques de l'ancienne Chine, cette discipline du traitement par la sorcellerie a été mise à la 13e place. Ainsi, son nom complet est le traitement par la sorcellerie, 13e discipline. Ces méthodes thérapeutiques sont principalement des méthodes comme chanter des formules incantatoires, ce genre de choses. Brûler des papiers, brûler de l'encens, chanter des formules incantatoires, tracer des signes talismaniques, etc. Il y a quelques années, alors que le Qigong devenait populaire, pas mal de gens ont pratiqué ces choses. Les pratiquants de Dafa ont l'interdiction absolue de les utiliser. Nous n'invitons pas ces choses mauvaises. Tous les véritables Suolian ne permettent pas l'usage de telles choses. Habituellement, leurs méthodes thérapeutiques sont tout à fait particulières. Je donne souvent l'exemple suivant. Disons qu'une personne a un furoncle sur le visage. Comment sera-t-elle traitée? Il prend un pinceau, le trempe dans le cinabre, c'est-à-dire dans un pigment rouge, dessine un cercle sur le sol, trace une croix à l'intérieur du cercle et te dit de te tenir au centre de la croix face à l'est. Ces gens sont des taoïstes, de sorte qu'ils doivent se tenir face à l'est. Au niveau inférieur du Tao, il y a un adage. Le Bouddha est à l'ouest et le Tao est à l'est. En fait, ce n'est pas le cas, c'est simplement un adage taoïste d'un niveau inférieur. Alors ils dessinent des cercles sur le visage de la personne et en même temps ils chantent des formules incantatoires. Ils continuent de chanter et de chanter et finalement ils touchent le furoncle avec la pointe du pinceau et disent « Ça y est, c'est guéri. Tu touches, cela ne fait plus aussi mal qu'auparavant et il semble que ça soit devenu plus petit. » C'est-à-dire que ça peut avoir un certain effet thérapeutique ou par exemple, supposons que tu dis « Mon bras me fait mal, cela ne va pas. » Il dit « Je veux faire sortir ta maladie par le point d'acupuncture Hegu, entre le pouce et l'index. Comment sortira-t-elle? Je vais souffler une bouffée d'air dans ton point d'acupuncture Hegu, celui de ce côté, et tire tes bras. Tout d'abord, il chante des formules incantatoires, il continue de chanter, et ensuite il insuffle une bouffée d'air dans ce point d'acupuncture Hegu, et tu sens l'air passer à travers tes bras. Plutôt bien, ça ne fait plus aussi mal qu'avant. Ces méthodes ont une certaine efficacité sur des maladies mineures. Mais je l'ai dit auparavant, pourquoi ne dois-tu pas l'utiliser? Les gens ne savent pas comment ça marche et ne s'en préoccupent vraiment pas. Ils veulent être soulagés et c'est suffisant pour eux, mais pas pour les pratiquants. Nous devons garder notre corps pur et constamment nous élever vers les niveaux supérieurs. C'est pourquoi il n'est pas permis d'attirer de telles choses. En fait, tous ces moyens thérapeutiques marchent en utilisant des esprits inférieurs et des choses chaotiques. C'est ce qu'on appelle Zhu Yu Ke. Nous t'en avons parlé parce que dans la cultivation, il y a beaucoup de choses de ce genre. Il y en a encore quelques autres. Parlant de ceci, je vais digresser et mentionner quelque chose d'autre. Il y a des chamans d'encens dans le nord de la Chine et dans le sud. Il y a des sorcières, des magiciens, etc. Aucun d'entre eux n'appartient à la catégorie du Qigong parce que dans les véritables voies du Suolian, tu dois compter sur toi-même pour cultiver ce qui est à toi, pour obtenir ce qui est à toi. Mais eux ne le font pas. Tout ce qu'ils font est d'attirer ces entités mauvaises. Ils chantent des formules incantatoires apprises par cœur pour les invoquer. C'est tout ce qu'ils font. car ces entités ont elles aussi de l'énergie, elles viennent. Lui-même n'a pas de gong, mais ces mauvaises entités qu'il a invitées ont de l'énergie. C'est pourquoi il peut traiter des maladies. Sinon, c'est comme la possession des esprits. Parce que l'esprit qui les possède peut aussi traiter des maladies. Cette possession, cet animal, a des pouvoirs supranormaux. Voilà pourquoi il peut tromper les gens. Parlons brièvement d'une autre question. Quand les élèves assistent à nos séminaires de Falun Gong ou quand on organise d'autres activités du Falun Gong, ne force pas les gens qui sont très gravement malades à assister à nos séminaires. Parce qu'ils ne viendront que pour leur maladie. Quelqu'un vient de m'écrire une note et essaye par tous les moyens de me faire guérir sa maladie. Il me disait « Maître, durant les nombreux cours précédents, vous avez dissous mon karma pour moi. Mais maintenant, j'éprouve encore un malaise à tel et tel endroit. Tout cela est écrit entre les lignes. Même si tu ne fais qu'un seul trait, je saurai ce à quoi tu penses. Cela veut dire que tu ne peux pas laisser tomber ces choses. C'est pourquoi quand une personne très gravement malade ne peut abandonner cela, sa vie est en danger à tout moment, car il ne se trouvera personne pour prendre soin d'elle. Ici, sous l'effet du champ d'énergie, ça lui sera peut-être encore plus insupportable. Donc c'est vraiment dangereux. Tu dois absolument faire attention à cela. S'il lui arrive quelque chose, cela nous amènera de grands dommages. Protéger la réputation du Falun Gong est le devoir de chaque disciple de Falun Gong. Car toi aussi, tu es un membre du Xiulian du Falun Gong. Et aussi, ne contrains pas les gens à venir ici pour être traités de leur possession en leur disant « Maître Li peut s'occuper de la possession, celui peut régler cela. Va lui demander. Amener des gens éloignés de milliers de kilomètres pour qu'ils me demandent de les traiter, je ne suis pas ici pour résoudre ces problèmes pour toi. » Tout ce qui t'appartient a une cause karmique en arrière-plan. Je ne peux pas faire cela librement pour toi. Ici, nous prenons soin des pratiquants. Certaines personnes pensent, moi aussi je cultiverai et pratiquerai, enlevez-moi ça et alors je cultiverai. Il n'y a aucune condition préalable pour la cultivation. Il faut cultiver et pratiquer inconditionnellement. Avoir des conditions préalables est inacceptable. Si d'autres ne veulent pas s'inscrire au séminaire, ne les contrains pas à participer à ce séminaire. Nous allons rappeler d'abord ce qui n'est pas agréable à entendre. Si quelqu'un qui est très gravement malade ne se sent pas bien durant notre cours, alors qu'il aille à l'hôpital immédiatement. Ici, nous ne soignons personne avec nos mains. Ici, nous dirigeons un séminaire. Nous enseignons seulement le fa. Puisque le temps est limité, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, nous allons apprendre le troisième exercice. Je vais parler du troisième exercice et ensuite nous ferons une pause. Le troisième exercice est appelé pénétrer les deux pôles cosmiques. Qu'est-ce que cela veut dire ? Vous savez, certains systèmes enseignent à recueillir le qi du yang céleste et le qi du yin terrestre. Dans notre système de Xiulian, nous prenons le principe de l'évolution cosmique et les caractéristiques de Zhen Shan Zhen pour guider directement la pratique. Nous pratiquons quelque chose de vraiment énorme. Alors qu'est-ce que le yang céleste et le yin terrestre? La portée en est simplement trop petite. Pénétrer les deux pôles cosmiques signifie que l'énergie est envoyée aux deux pôles cosmiques. Notre corps sera parcouru par l'énergie des deux pôles cosmiques. Voilà la signification. Mais quelle est la grandeur de cet univers? Par la pensée humaine, à l'aide de notions humaines, on ne peut pas l'imaginer. Même si tu t'assois là et que tu y penses toute une journée, tu ne parviendras pas à son extrémité, tellement l'univers est grand. C'est absolument impossible. C'est pourquoi la véritable cultivation est la non-action. Il n'y a pas d'activité de l'esprit, rien du tout. Nous ne parlons pas d'activité de la pensée. Peut-être il y a écrit dans le livre « Aie conscience légèrement de tes deux paumes ». Cela signifie que lorsque tes mains sont en mouvement, tu dois être conscient de ce que tu fais. Autrement, tu ne saurais même pas ce que font tes mains. Ce serait le chaos. Mais il n'y a aucune activité de la pensée. Ainsi, durant l'exercice « Pénétrer le deux pôles cosmiques », tout ce que tu as à faire est d'accomplir les mouvements. Le mécanisme énergétique que j'ai implanté en toi peut avoir un effet. En un instant, il propulse l'énergie très loin. En un instant, il la ramène. Elle se déplace dans un espace où le temps est extrêmement rapide. C'est pourquoi elle n'est pas restreinte par notre temps très lent. Elle arrive en un instant, elle vient en un instant. Tout ce que tu as à faire est d'effectuer les mouvements. Et le mécanisme énergétique de cet exercice, son mécanisme créera par lui-même cet effet. Quand nos mains bougent, nous pouvons ressentir une sorte de sensation. Quelle sensation ? La sensation des mains qui flottent. C'est-à-dire qu'il existe une sorte de mécanisme, un mécanisme qui meut l'énergie. Quand tu veux faire cet exercice, ce mécanisme énergétique se met à fonctionner. Tes mains vont flotter naturellement, automatiquement, en suivant ce mécanisme énergétique. Une personne qui vient de commencer la pratique doit être très sensible pour pouvoir le sentir. Mais après avoir pratiqué un temps, elle sera capable de l'éprouver. Toute personne sera capable de le sentir. Simplement, les mains se déplacent en aller-retour par elles-mêmes, flottant de bas en haut et de haut en bas, en glissant le long du corps. Ainsi, même si tes mouvements ne sont pas précis, ça n'a pas d'importance. Graduellement, le mécanisme les corrigera. Cependant, au début, tu dois faire de ton mieux pour les effectuer correctement. Ne permet pas au mécanisme de se déformer. Pourquoi effectuer les mouvements et la pratique du gong ? Puisque nous pouvons pénétrer de cette manière les deux pôles cosmiques, est-ce que cela signifie que nous n'avons pas besoin d'effectuer les mouvements ? Non, ce n'est pas le cas. Les mouvements de nos exercices diffèrent sur un autre aspect, celui du renforcement des pouvoirs divins et des pouvoirs supranormaux des autres systèmes. Tout ce que nous avons de magique doit aussi se développer automatiquement. Alors, nos mouvements sont simplement là pour renforcer tes mécanismes énergétiques. Il s'agit de renforcer ces mécanismes pour qu'ils se forment en permanence. Même si toi-même ne l'as pas fait, à chaque instant, ils pénètrent les deux pôles cosmiques. Ce mécanisme opère de lui-même. Ainsi, quand tu le fais, tu es simplement en train de le consolider, de le renforcer parce que les mains émettent de l'énergie. Les points clés pour cet exercice sont les mêmes que pour les exercices précédents. Les pieds sont écartés de la largeur des épaules, on se tient debout naturellement, il n'y a pas de mouvement d'étirement. Il s'agit absolument de la même posture que lorsqu'on tient le Falun. On est détendu. Seuls les bras bougent, les jambes ne se déplacent pas. Le corps reste relâché, mais pas avachi. La langue est contre la partie dure du palais, laisse un espace entre tes dents et tes lèvres sont fermées sans forcer. Durant la pratique des 5 exercices, les yeux sont clos. Les exercices sont pratiqués avec les yeux fermés. Évidemment, lorsque tu apprends, ne ferme pas les yeux, sinon tu ne pourras pas voir pour apprendre. Le rythme de tes mouvements de main doit être le même que celui que nous enseignons. Le rythme qui est enseigné doit être à peu près le même que celui qui est sur ma vidéo. Bien sûr, dire cela ne signifie pas que l'on exige une précision absolue, que l'écart soit de 0,0 seconde. Nous n'insistons pas là-dessus, ce n'est pas important en soi. Ce Falun qui est le nôtre est comme cela. Probablement, chacun a le matériel de conférence entre ses mains. Sur la couverture de notre livre, il y a une image de la structure du Falun. La structure du Falun est extrêmement complexe. Superficiellement, cela ne semble pas particulièrement complexe. Nous avons utilisé quelques symboles comme un emblème, pour être l'emblème du Falun. En fait, il s'agit d'une chose extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe et à chaque niveau, il y a des structures différentes. Comme notre Falun Gong est pratiqué en accord avec les principes de l'évolution de l'univers, sa structure est aussi élaborée en accord avec la forme de l'univers. Mais superficiellement, il est très simple. Par exemple, le Falun dans son ensemble tourne. Il est en mouvement. Il se meut comme un tout en tournant sur lui-même. Le centre de ce Falun tourne aussi sur lui-même. Autrement dit, le centre, la partie rouge, tourne sur elle-même. Les Taiji, les 4 Taiji, tournent aussi sur eux-mêmes. Les 4 swastikas font de même. Ils sont identiques. Durant l'époque de la dynastie Tang, le swastika était appelé le symbole de Wanzi, le caractère chinois pour 10 000. Auparavant, on disait que c'était un signe auspicieux de bonne fortune. En fait, c'est la marque de Bouddha. Ils sont aussi en mouvement et tournent sur eux-mêmes. Pourquoi affirme-t-on cela ? Parce que l'univers est en mouvement. L'univers a 4 côtés ou 8 directions. 8 directions plus celles en dessus et en dessous du centre constituent le monde des 10 directions. C'est la vision de l'univers de l'école bouddhiste. Sa compréhension de l'univers, cela veut dire que dans cet univers, dans ce monde des 10 directions, toutes les galaxies dans les 10 directions sont en mouvement, en rotation sur elles-mêmes. C'est ainsi qu'il est. C'est pourquoi ceux d'entre nous qui avons des capacités supranormales pouvons voir qu'il est vraiment en rotation. Le centre représente la galaxie de notre voie lactée. À ce niveau, ça a ce sens. Ainsi, lui aussi est en mouvement et aussi en rotation. C'est la situation où tout est en mouvement, tout est en rotation. Alors, puisque nous sommes de l'école de Bouddha, pourquoi y a-t-il les Taiji de l'école taoïste? Pourquoi y a-t-il ces Taiji? Parce que, comme chacun le sait, le fa que nous transmettons aujourd'hui est déjà très vaste. Il est répandu dans l'univers sur la base des plus hauts principes du fa de Bouddha, Zhen Shan Zhen. Réfléchissez, les plus hautes caractéristiques de l'univers. Même l'école taoïste ne peut s'écarter de Zhen Shan Zhen. Et l'école de Bouddha est aussi inclue dans Zhen Shan Zhen. Ce dont nous parlons maintenant est le principe de l'univers entier, un fa tellement énorme. Donc, sans l'école taoïste, il ne peut pas former un univers complet. Car dans cet univers, il n'y a que les deux écoles principales de Bouddha et du Tao. Seulement ces deux écoles principales de Bouddha et de Tao. Alors certains n'y croient pas, disant, n'y a-t-il pas encore celle de Jésus-Christ et le confucianisme chinois? Je vous dis, toutes ces religions orthodoxes sont... Le confucianisme est considéré, quant à un niveau supérieur, on le classifie, il appartient au domaine du système taoïste. À l'ouest, il y a des religions orthodoxes, qui, lorsqu'elles sont classifiées à un haut niveau, appartiennent au domaine du système bouddhiste. À un très haut niveau, il s'agit de quelque chose de mystérieux et de magnifique. Ainsi, il n'y a vraiment que ces deux écoles majeures. Alors pourquoi y a-t-il deux différentes sortes de Taiji? L'un avec une partie supérieure rouge, une partie inférieure noire. L'autre avec une partie supérieure rouge et une partie inférieure bleue. Parce que le Sulian du Grand Tao est de cette sorte. Il en va de même pour le Taiji primordial, avec une partie supérieure rouge et une partie inférieure bleue. Cette partie supérieure rouge avec la partie inférieure noire appartient à cette sorte de Tao que nous reconnaissons aujourd'hui. Cette sorte de Tao est familière aux gens. C'est Tao que la vénérable divinité céleste de l'origine surveille en cette forme. En fait, l'école taoïste dans le passé, durant une antiquité très reculée, n'a jamais formé de religion. Historiquement, il s'est toujours agi d'une cultivation faite de manière solitaire. On cultivait seul. Cependant, dans l'histoire récente, cette question est apparue dans la religion taoïste. En fait, elle était déjà une religion réformée. La couleur de ce Falun, la couleur du fond peut changer. Excepté les symboles, la couleur de fond du Falun changera. Pourquoi avons-nous fixé ce genre de couleur et l'avons-nous utilisé pour notre emblème? Parce que cette couleur est un peu plus brillante et paraît belle. C'est pourquoi nous en avons fait un emblème. En fait, cette couleur de fond change. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, pourpre, avec couleur et sans couleur, cela changera. Alors il y a beaucoup d'élèves qui disent « Maître, les couleurs du Falun que j'ai vues ne sont pas comme cela ». Il était blanc ou il n'avait pas de couleur, ou il était rouge, bleu, violet. Bien, ce que tu as vu est tout à fait correct. Dans l'univers, dans les espaces de l'univers, la matière immense sans limite justement change de couleur. Il s'agit simplement de changement de couleur. Il y a toutes les variétés de couleurs possibles, toutes les couleurs de la matière. Certaines personnes ont peut-être encore une question, c'est-à-dire, il y a des gens qui n'ayant pas une grande connaissance des religions peuvent alors penser. Pourquoi cette chose au centre ressemble-t-elle à celle d'Hitler? Chacun sait que notre humanité connaît ce symbole, largement répandu déjà depuis le temps de Shakyamuni. Avant Shakyamuni, à l'Ouest, il était utilisé dans de nombreuses religions. Ce symbole, je vous le dis, est en fait l'emblème d'un Bouddha. Seuls ceux qui ont atteint le niveau de Bouddha le possèdent. Ceux qui n'ont pas le niveau d'un Bouddha ne l'ont pas. Seulement ces grandes bodhisattvas, certaines grandes bodhisattvas ont même déjà dépassé des Bouddhas. Elles ont déjà atteint les niveaux de Bouddha et c'est pourquoi elles l'ont aussi. Les petites bodhisattvas ne l'ont pas, ni les arhats. Seulement les bouddhas portent ce genre de symbole. S'ils dépassent le niveau d'un tathagata, ils en ont deux sur la poitrine. Plus leur niveau s'élève, plus ils ont de symboles. Les êtres humains dans cette période de civilisation humaine le connaissaient déjà il y a 2500 ans. Et Hitler et la Deuxième Guerre mondiale, Hitler est apparu il y a quelques années seulement, n'est-ce pas? Pas plus que quelques décennies. il a usurpé ce symbole. Certaines personnes disent, si cet angle était tourné dans cette direction, ce serait celui d'Hitler.
Je dis, pas nécessairement.
Parce que c'est quelque chose qui tourne sur lui-même, c'est quelque chose qui est en rotation. Il est ainsi. Puisque tu le vois seulement sur une feuille de papier, c'est la vision de nos yeux charnels. Mais il a encore des corps existants dans de nombreux espaces. Alors je dis, l'homme ne peut pas en juger selon la superposition plus ou moins grande de ses arrangements. Ainsi, ce qu'il reflète à l'intérieur est vraiment mystérieux et merveilleux. Beaucoup d'élèves en ont vu beaucoup, vraiment beaucoup. Je dis que ce que tu as vu est tout à fait réel. Eh bien maintenant, nous allons commencer à apprendre les exercices.